Et donc, je vous propose de faire la lecture donc, de Daniel, du livre de Daniel, chapitre 4. On est à environ en 550 avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël est esclave, a été emmené à Babylone en déportation et ils sont sous la domination du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi les branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec les chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme des bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, mon seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet homme dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer d'airain parmi l'herbe des champs. Et qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, qu'on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme des plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui dise « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers, mes grands me redemandèrent. Je fus établi dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Est-ce que je peux avoir un peu de retour, s'il te plaît? Je ne m'entends pas du tout ici. Vous m'entendez? Moi non. J'entends parler. Et juste, on va s'incliner dans la prière un instant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour le bonheur de t'appartenir. On te loue, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as laissé ta parole pour qu'elle puisse encourager nos cœurs, qu'elle puisse toucher nos âmes, qu'elle puisse nous reprendre, nous corriger quand on en a besoin. Seigneur, on te demande d'intervenir au milieu de nous, Seigneur, de parler à nos cœurs ce matin, par Jésus-Christ. Amen. J'ai rien du tout, là. Je commence, quand même. Si vous m'entendez, c'est le principal, mais j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Le texte de ce matin, de Daniel, extraordinaire. Il parle de l'orgueil d'un monarque. Et j'aimerais donner une petite illustration pour essayer de nous mettre dans le bain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les hommes sont comme des alpinistes. Les hommes veulent toujours s'élever, toujours plus haut. Il y a quelque chose dans nos cœurs qui ambitionne toujours d'être plus grand, d'être plus puissant. Et d'une certaine manière, c'est pas mal parce que ça permet un certain nombre de choses de se faire. Si on cherchait toujours à être le plus médiocre, les choses ne seraient pas belles. Mais en altitude, plus on grimpe en altitude et plus l'air s'appauvrit en oxygène. Et le manque d'oxygène est fatal pour l'homme. La chose, c'est qu'il ne se perçoit pas toujours qu'il manque d'oxygène. Il a plus de mal à respirer, plus de mal à avancer. Il connaît quelques troubles cognitifs, sa vision se trouble. Les choses paraissent plus aussi clairement. Et puis, même parfois, il a une perception complètement erronée. Parfois, ils ont le sentiment de, ils sont à moins 30 ou moins 40 et ils ont l'impression d'avoir trop chaud et ils enlèvent leur veste, leur blouson, et ils meurent de froid, congelés sur place. Sans apport d'oxygène, c'est sûr, ils meurent. Sans apport extérieur d'oxygène, ils meurent. Et au fond, l'oxygène pour nous, c'est la louange de notre Dieu. C'est reconnaître, comme il est dit ici dans le verset 17, verset 25, verset 32, comme le refrain, comme le refrain oui, de notre passage, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes, le plus insignifiant des hommes. Je pense qu'on a besoin de réfléchir à ça. Si on oublie de glorifier Dieu, si on oublie de louer notre Dieu, de le célébrer comme il en est digne, de lui apporter toute la louange, la gloire qui lui appartient, alors notre vision va commencer à se fausser. La perception que nous avons de nous-mêmes, la perception que nous avons de ce monde va se fausser et nous allons périr. Et donc c'est aussi ce message que Nebuchadnezzar a dû apprendre. Et le peuple d'Israël en captivité reçoit aussi ce message pour apprendre cette vérité. Et c'est aussi un message pour nous. Il n'y a rien de plus néfaste pour nous, pour l'Église, que l'orgueil. Il n'y a rien qui provoque davantage l'opposition divine et notre ruine que l'orgueil. Ici, c'est la dernière fois que l'on va entendre parler de Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Aussi, je vous propose de considérer ce chapitre comme le testament d'un roi. Et son testament, on va le voir, Dieu m'a averti, ça c'est le songe et son explication, on verra qu'il dira Dieu m'a humilié. Et cet aspect, c'est la réalisation du songe. Et puis enfin, Dieu m'a fait grâce. Ça, c'est la leçon qu'il a finalement apprise. Et donc, je vous propose de regarder tout d'abord, Dieu m'a averti. Le songe et son explication. Ici, Nebuchadnezzar, au début du récit, il raconte. Et c'est étonnant, vous avez remarqué, dans les versets 1 à 3, il donne comme la conclusion. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître des signes et des prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ces signes sont grands. Et au fond, il va donner simplement la conclusion. Avant de faire tout le récit, il nous donne la conclusion. Il nous dit, voilà tout ce que j'ai appris. Voilà ce qu'il y a de plus précieux. J'arrive à la fin de ma vie. J'arrive après avoir compris ce que j'ai compris. Je vous le livre, je vous le donne. C'est mon testament. Retenez-le. Et il commence par nous dire, dans le verset 1, que la paix vous soit donnée avec abondance. Vous avez vu qu'il s'adresse à tous. À tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Est-ce que vous vous sentez concerné par le testament de Nebuchadnezzar à tous les hommes? C'est comme s'il dit la leçon que tous les hommes ont besoin d'apprendre, c'est celle-ci. Et puis il dit que la paix vous soit donnée. Merci Nebuchadnezzar, il veut notre bien, il recherche notre paix. Et puis, il dit au verset 2, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Je vais vous dire, je vais vous révéler tout ça. Et puis verset 3, il ne peut pas s'empêcher, même avant de raconter l'histoire, de louer Dieu. Oh, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Si vous voulez apprendre quelque chose, retenez ça. Dieu nous avertit. Dieu, il nous enseigne dans sa parole que l'orgueil provoque la ruine. Proverbe chapitre 16, verset 18 dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » 18-12 « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » 29-23 « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » L'histoire d'Aman dans le livre d'Esther, le prophète Ésaïe nous le dit encore. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Le Nouveau Testament le répète à plusieurs reprises. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La Bible nous enseigne que le péché du diable, c'était l'orgueil. Il a voulu être comme Dieu. Il a voulu s'élever comme Dieu. Et il a été précipité. Il a été défait de sa grandeur. La créature de Dieu est devenue ennemie de Dieu. Et sa fin sera la perdition, la ruine. Et puis le diable a tenté l'homme et la femme dans le jardin en leur faisant miroiter qu'ils seraient comme Dieu. Et ils ont désobéi et leur créateur est devenu leur ennemi. Il les a précipités. Ce gène de l'orgueil, il nous a été transmis. Et il infecte, il impacte toute notre vie. On veut toujours se mettre à la place de Dieu. Nous nous prenons parfois pour Dieu. Il y a quelques années, je me suis cassé le coude. J'ai dû être opéré sur la table d'opération quand les infirmières étaient en train de préparer l'intervention. J'ai dit, comment il est le chirurgien? Alors, ils m'ont dit, vous connaissez la différence entre Dieu et un chirurgien? J'ai dit, non. Et il dit, Dieu ne s'est jamais pris pour un chirurgien. Dieu s'est jamais pris pour un chirurgien. Par contre, le chirurgien, tellement souvent, il se prend pour Dieu. Il se prend tout puissant, il va réparer. Est-ce qu'on peut pas faire cette blague avec tous? Est-ce qu'on peut pas faire cette blague avec les profs qui savent tout? Est-ce qu'on peut pas faire cette blague avec les électriciens qui apportent la lumière? Est-ce qu'on peut pas faire cette blague avec les sages-femmes qui donnent la vie? Est-ce qu'on peut pas faire cette blague avec les avocats qui nous défendent, avec les retraités qui finalement sont sages, avec les pères ou les mères qui se prennent pour Dieu, avec les pasteurs? Certainement, on peut faire cette blague. Oui, ce mal nous guette tous. Et parce que l'orgueil a provoqué tellement de dégâts, Dieu s'oppose farouchement aux orgueilleux. Imaginez, il n'y a pas d'ennemi plus redoutable que Dieu. Il est contre nous l'instant où on vit dans l'orgueil. Vous savez, les songes naissent de la multitude des occupations. Ça, c'est ce que nous disent les Écritures. Aussi, les rêves de Nebuchadnezzar reflètent sa mégalomanie. Il est en train de rêver. Je me voyais déjà. Je ne vais pas aller plus loin. Mais il se voyait déjà comme un arbre gigantesque. On le voyait depuis toute la terre. Et puis tous les oiseaux du ciel venaient. Et puis les animaux des champs venaient se protéger. Et puis les fruits étaient abondants et verdoyants. Alors ils pouvaient nourrir toute la terre. Vous voyez un peu la chose. Toute sa vision là, elle est mégalo. Il se prend pour Dieu. On le voyait des extrémités de la terre. Il est comme omniprésent. On le voit partout. Il se prend littéralement pour Dieu. Est-ce que parfois on n'a pas cette tendance, nous aussi, à nous prendre pour Dieu? Nous nous imaginons capables de secourir toute la terre. On s'imagine capables de conseiller, de consoler. On a le sentiment que on connaît au fond les solutions à tout, tous les problèmes. Vous avez un problème, venez me voir. Ah, je vais vous donner la sagesse. Je vais vous expliquer la vie. Souvenez des amis de Job. Il est anéanti par la souffrance. Et puis ses amis viennent et puis lui disent, mais si tu souffres comme ça, mon gaillard, c'est parce que t'as certainement du péché. Alors repens-toi. Et puis tu verras, ça ira mieux. C'était pas le cas pour lui. Et Job a cette parole un moment dans son livre. Il dit, on dirait que le genre humain, c'est vous. Vous savez tout. Et que avec vous doit mourir la sagesse. Est-ce qu'on n'est pas comme ça parfois? On donne un conseil, on sait. Oh, nous, on a vu au fond dans le cœur de l'homme et on comprend tout ce qui s'est passé dans sa vie et on a toute la solution et tac, on lui donne, on la livre comme ça, paf. On se prend pour Dieu. On se prend pour Dieu en pensant que parfois on est le centre de l'univers, que tous les regards sont portés sur nous, que le monde attend après nous. Que si on disparaissait, le monde va s'écrouler. Et puis on nous enterre. Et puis la vie continue. On a l'impression que on sait tout faire, alors on n'a pas besoin d'aide. On refuse l'aide. Non, non, je vais m'en sortir tout seul, t'inquiète pas. Un peu comme les enfants, vous savez, et on leur a mis deux fois les chaussures, ils disent non, laisse-moi faire maintenant. Puis ils repartent avec les chaussures à l'envers. On sait tout. Laisse-moi faire, je sais. Par contre, on aime bien aider les autres. Toi, tu as besoin de moi. Parce que là, tout de suite, on a un pouvoir sur les autres, on a une aura. On est comme Dieu. On veut être grand. Et on se voit plus grand qu'en réalité nous sommes, comme dans un miroir déformant. C'est la folie déjà qui nous atteint, manque d'oxygène là. Quand on échoue, c'est la faute des autres ou c'est la faute des circonstances parce que quand même nous on doit faire illusion. On se croit plus fort que ce que l'on est. Comme l'apôtre Pierre, vous vous souvenez quand il dit mais même si tous t'abandonnaient, moi je t'abandonnerai jamais. Et Jésus, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois de me connaître. Vous savez, l'orgueilleux il ne veut pas d'aide parce qu'il ne veut pas avoir à dire merci. Il ne veut pas être redevable à quelqu'un. Il ne veut pas devoir dépendre de quelqu'un. L'orgueilleux, il ne veut pas de dette. Il ne veut être le débiteur de personne. Il n'a pas de père, au fond. C'est comme s'il s'est fait tout seul. Voilà, je suis. C'est un peu se prendre pour Dieu encore. Il n'a pas de frère non plus. Il n'a pas d'alter ego. Il n'a pas de semblable. D'ailleurs, il ne veut pas être mélangé à tout le monde, être comme tout le monde. Il veut bien faire partie de la chorale, mais s'il est soliste. Vous voyez, parce que quand même, je veux bien aller avec eux, mais quand même, je... Il ne supporte pas d'être traité comme tout le monde. Ainsi, l'orgueilleux, il n'a pas besoin de Dieu. Au fond, parce qu'il est son propre Dieu. Il s'est fait tout seul. Il n'a de compte à rendre à personne. Il n'a besoin de rien. Il n'a pas de louange, pas de remerciement à adresser. Dieu nous avertit, verset 14. Un jour, nous serons abattus. Un jour, nous allons devoir vivre dans la réalité. Un jour, nos illusions vont s'effondrer. Nous ne pouvons pas vivre dans l'illusion de ce que nous aimerions être et que nous ne sommes pas. Un jour, nous serons devant Dieu, devant notre Créateur, celui qui nous donne toutes choses, qui nous a donné la vie, celui qui nous garde, celui dont nous sommes entièrement dépendants. Et alors, qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qu'on va faire? Dans son rêve, Nebuchadnezzar entend qu'il va être abattu, qu'il ne donnera plus aucun fruit, plus aucune protection, qu'il ne sera utile à personne. Son cœur d'homme lui sera ôté pour être un cœur de bête. Un côté bestial chez l'orgueilleux. Mais il entrevoit aussi que l'humiliation sera temporaire. Il dit pendant 7 ans. 7 ans. Je suppose que c'est 7 ans, puisque ses cheveux, c'est pas 7 jours en tout cas, pas 7 semaines, je pense non plus, parce que ses cheveux doivent pousser tellement que ça doit ressembler à des plumes d'aigle, que ses ongles vont passer, que toutes les saisons de l'année vont s'abattre sur lui, la pluie, etc. Qui va vivre comme une bête. Tout ça, verset 17, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il a la possibilité d'élever le plus insignifiant des hommes. Devrions-nous laisser avertir par le rêve de Nebuchadnezzar? Devrions entendre aussi le conseil de Daniel qu'il donne au verset 27. Vous avez remarqué que c'est un bonus pour Nebuchadnezzar. Il n'a pas demandé de conseil, mais là, Daniel lui en donne un. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Visiblement, Daniel, il ne voit pas Nebuchadnezzar comme lui-même se voit dans ses rêves. Il le voit comme un pécheur, comme un homme injuste, un homme dépourvu de compassion envers les malheureux, un homme qui doit se repentir et se tourner vers Dieu. Nebuchadnezzar n'a malheureusement pas écouté l'avertissement divin. Alors Dieu l'a humilié. Dieu m'a humilié, dit-il. Un an plus tard, verset 29, au bout de 12 mois, je trouve que Dieu est patient. Après ce rêve, après l'explication de Dieu donnée par Daniel, Dieu a laissé du temps à Nebuchadnezzar pour se repentir. Mais il ne l'a pas fait. Dieu nous avertit. Il y a comme des symptômes à l'orgueil. Cette idée, je peux faire ma vie, je peux vivre la vie sans Dieu. Ça veut dire, je le connais, je sais qu'il existe. Mais au fond, dans ma vie, au quotidien, ça change rien. J'ai pas besoin de lui, finalement. Je m'en sors très bien tout seul. Tout ce que je fais, mon travail, ma vie professionnelle, ma vie de famille, ma maison, tout ça, j'ai pas besoin de lui. Mes finances, alors là, je gère. J'ai pas besoin de Dieu. Ça, c'est un symptôme. Et si vous diagnostiquez les symptômes, ces symptômes dans votre vie, vous devez combattre l'orgueil avec une détermination totale. Alors qu'il se promène sur son palais, il donne cours à son orgueil, à sa suffisance, et au verset 30, il dit « N'est-ce pas ici Babylone la Grande, que j'ai bâti pour, comme résidence royale par la puissance de ma force ?» et pour la gloire de ma magnificence. Vous avez remarqué, il dit, Babylone la Grande. Avant, c'était Babylone. Maintenant, c'est Babylone la Grande que j'ai bâtie. Babylone, c'est une des villes, sinon la ville la plus ancienne de la planète. Nebuchadnezzar n'était pas né, il n'était pas prévu de naître par ses parents, ni ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, que la ville existait déjà. Et lui, il dit, moi, Nebuchadnezzar, que j'ai la ville que j'ai bâtie, moi. Et d'un autre côté, il a certainement raison, parce que il a énormément embelli cette ville. Il a fait énormément de constructions. Il a été réputé à cause de ses projets de construction partout dans cette ville. Et cette ville, c'est lui qui a fait construire ces jardins suspendus. On ne sait pas trop bien à quoi ça correspond, mais en tout cas, c'était certainement magnifique puisque ça a été déclaré une des 7 merveilles du monde antique. Et donc, il ne s'agit pas de dire Nebuchadnezzar n'a rien fait. Il ne peut pas être fier de quoi que ce soit. Et de la même manière, nous, on a des talents. Et on les fait valoir. Et puis on travaille. Et puis on arrive à certaines choses, à un certain succès. Il ne s'agit pas de dire, ben voilà, je suis champion du monde. Oh non, mais je vois rien, tu sais. T'es champion du monde et toi tu vois rien. T'es nul. Ça c'est une manifestation de l'orgueil. Hein. Si t'es champion du monde, t'es pas nul. T'es même champion du monde. Sauf que le problème c'est après, ce qu'il dit. J'ai bâti ça par ma puissance. J'ai bâti ça pour ma magnificence, pour ma gloire. C'est ça le problème. Et tout le drame de Nebuchadnezzar, pour le problème de l'orgueilleux, lui, le problème de l'orgueilleux, c'est qu'il ne reconnaît pas Dieu qui donne la force et qui donne la sagesse. Il ne fait pas les choses pour la gloire de Dieu, mais pour sa vaine gloire. Les fouilles archéologiques ont montré que beaucoup des briques utilisées dans les constructions de Babylone étaient marquées par son nom, Nebuchadnezzar. Toutes les petites briques. Nebuchadnezzar. Il faut quand même être... Mais alors que les paroles du roi sont encore dans sa bouche, la voix de Dieu se fait entendre, versets 31 et 32. Et au même instant, cette parole s'accomplit. Il devient fou. Oxygène, zéro. Il est saisi, frappé par une maladie mentale sévère, une forme de lycanthropie. Le malade se prend pour un animal et il vit à l'état sauvage, se nourrissant de l'herbe des champs. Vous imaginez la chute? Il est l'homme le plus puissant de la terre. Il est l'homme le plus riche de la terre. Il est l'empereur du premier empire de la terre. Et là, il se retrouve en dessous du plus petit misérable de son royaume. Il est comme une bête. L'année qui a suivi mes études à l'Institut biblique, on m'a demandé d'enseigner le cours d'un prof qui partait à la retraite. Et j'ai essayé de faire ce cours, enfin j'ai fait ce cours, d'enseigner ce cours. Mais un jour, le directeur m'a pris entre quatre yeux et puis il m'a demandé comment j'interprétais tel passage. Et je lui ai dit, ce que j'avais enseigné la veille à mes étudiants. Et là, il me dit, mais c'est pas du tout ce que dit la Bible. Je l'ai regardé comme ça. Il me dit, mais c'est pas ça. Regarde. Et puis, il m'a démontré, avec le texte là, que je m'étais complètement fourvoyé. Vous savez, quand je suis rentré chez moi ce jour-là, j'étais profondément humilié. Ah, j'étais comme une carpette. J'avais commis une grossière erreur. j'avais induit des étudiants dans une mauvaise compréhension des Écritures. J'étais tellement déçu de moi-même. J'étais déçu à la fois à cause de Dieu, mais de la charge qu'il m'avait confiée, mais aussi par rapport à... J'étais déçu de moi. Je complètement anéanti. Et j'étais prêt à remettre ma démission pour incompétence. En rentrant chez moi, je suis tombé sur les pensées précieuses. Pensées précieuses, c'était juste un petit calendrier, et pour chaque jour, il y avait un ou deux versets. Et les versets étaient ceux-là, pour le jour même. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Et verset 27 dans le même psaume 119 dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » C'était comme si Dieu me disait avec une voix pleine d'affection. « Vincent, il y a quelques jours, tu avais besoin de finances pour nourrir ta famille. Dans ma bonté, j'ai pourvu. Et puis, quelques temps plus tard, tu avais besoin d'être encouragé. Dans ma bonté, j'ai pourvu. Aujourd'hui, tu avais besoin d'être humilié. Dans ma fidélité, j'ai pourvu à ton humiliation. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans mon cœur à ce moment-là. Quand je suis sorti des toilettes, parce que les pensées précieuses étaient dans les toilettes, je suis tombé sur mes genoux. Et j'ai remercié Dieu de m'avoir humilié. Parce que ce dont j'avais besoin ce jour-là, c'était cela. Et dans sa bonté, Dieu me l'avait donné. Il m'a montré que j'avais besoin constamment de lui pour comprendre sa parole et pour l'enseigner fidèlement. Il m'a montré que son amour pour moi était tel qu'il était prêt à me faire passer par des moments difficiles afin de révéler mon attitude fondamentale envers lui et envers sa parole. Vous comprenez l'importance pour le peuple d'Israël en exil d'assimiler cette vérité. Ils avaient besoin d'être humiliés. Et c'est pour cela que Dieu les a conduits à Babylone comme esclaves. Avant cela, du temps de Moïse, Dieu les avait envoyés dans le désert pendant 40 ans afin de les humilier et afin d'éprouver leur cœur. C'est la méthode de Dieu depuis toujours. Alors quand il le fait avec nous, est-ce qu'on pourrait avoir la même attitude? Ok, Seigneur, je comprends maintenant. Je comprends ce que tu voulais me dire. Je comprends que j'avais besoin d'être humilié et que dans ta fidélité, tu m'as humilié. Notre cœur, il est tellement prompt à s'enfler d'orgueil. L'orgueil provoque tellement la ruine. Que Dieu nous conduit régulièrement au désert, dans des situations difficiles, dans des situations humiliantes, pour un temps, afin que nous apprenions à reconnaître qu'il est le seul Dieu, celui dont nous avons besoin, le seul qui mérite la louange et la gloire. Enfin, Dieu m'a fait grâce, ça c'est le témoignage, le testament de Nebuchadnezzar, dans les versets 34 à 37. Ce qui est frappant, je trouve, dans ces versets, c'est l'attitude de Nebuchadnezzar. C'est qu'il ne dit pas simplement « Ah, ok, Seigneur, Dieu, tu m'as convaincu. C'est toi qui as raison. Et c'est toi qui es le plus fort. Ok, je t'arrive pas à la cheville. Ok, devant toi, je suis qu'un nabo. » Non, il n'a pas cette réaction. Qu'est-ce qu'il fait, Nebuchadnezzar? Il adore. Déjà, au verset 3, alors qu'il n'a pas encore raconté l'histoire, il ne peut pas s'empêcher d'adorer. Mais après, dans les versets 34 et 37, il fait que ça. Il dit, « J'ai béni le Dieu très haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. » Verset 37, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies sont justes. » J'aime tellement ce verset 34. Vous avez remarqué, il dit au début, verset 34, « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. » D'abord, on lève les yeux vers le ciel. À ce moment-là, la raison nous revient. Et quand on a la raison, on loue Dieu. Ceux qui louent Dieu, c'est ceux qui sont bien oxygénés. Ceux qui dépendent de lui, c'est ceux qui sont bien oxygénés, c'est ceux qui ont bien compris qui est Dieu. Ce sont les insensés qui ne louent pas Dieu. Ce sont les insensés qui n'ont pas besoin de lui. Mais quand la raison vous revient, vous est rendue, eh bien nous célébrons Dieu, nous l'exaltons. À la fin du chapitre 2, je ne sais pas si vous vous souvenez de tous ces passages, mais à la fin du chapitre 2, alors que Nebuchadnezzar vient d'avoir la démonstration de la puissance du Dieu de Daniel, seul capable de connaître les secrets et de les révéler le sens de son rêve, il dit au verset 46, « Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, raté. Et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices, encore raté, et des parfums, encore raté. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des seigneurs, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir le secret. » Chapitre 3, la fin du chapitre 3, Nebuchadnezzar, qui vient d'avoir la démonstration de la puissance protectrice de Dieu, du Dieu des amis de Daniel. Il a délivré de la fournaise ardente Shadrach, Meshach et Abednego. Voici ce qu'il dit. Verset 29, « Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Il a encore rien compris. » Mais chapitre 4, lorsqu'il vient de retrouver la raison, la chose qu'il fait, c'est qu'il adore. Il adore Dieu. Il adore son Dieu. Ça signifie que le contraire de l'orgueil, ce n'est pas l'humiliation. Le contraire de l'orgueil, c'est la louange de Dieu. Le contraire de l'orgueil, ou l'antidote à l'orgueil, ça n'est pas l'humiliation. Mais c'est la louange de Dieu. Si vous êtes simplement humilié, ça ne changera rien à votre vie. Dieu va devenir désagréable pour vous parce que personne n'aime être humilié. Mais l'instant où vous allez vous humilier et que vous allez louer Dieu de tout votre cœur, alors là, l'œuvre sera faite dans votre cœur. Mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que nous nous réunissons chaque semaine? C'est pour célébrer la grandeur de notre Dieu. C'est pour reconnaître que nous lui devons la vie. Pourquoi est-ce que nous écoutons sa parole? C'est pour célébrer sa sagesse par notre obéissance. C'est pour que nos cœurs apprennent à se détourner de nous-mêmes et soient guéris de notre orgueil, qu'il provoque la ruine dans nos vies. Nous nous réunissons pour célébrer la vie nouvelle qu'il nous a accordée en Jésus-Christ, sans laquelle nous serions perdus dans les ténèbres. Si nous ne louons pas Dieu, si nous ne le célébrons pas comme il en est digne, avec nos bouches, avec nos instruments, avec nos vies transformées, alors nous commencerons rapidement à célébrer nos mérites, nos succès, notre force, notre intelligence, notre sagesse, et nous connaîtrons la ruine. Si vous êtes dans des jours tranquilles, comme Nebuchadnezzar, hein, verset 4, il avait dit, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison, prospère, heureux. Si vous vivez des jours tranquilles et prospères, tournez vos regards vers Dieu. Louez, célébrez l'auteur de toutes ces bénédictions. Rendez-lui grâce. C'est l'oxygène. Si vous vous trouvez dans la vallée de l'humiliation, dans une situation difficile, humiliante, tournez vos regards vers Dieu. Louez, célébrez celui qui vous aime. L'Éternel qui est près de ceux dont le cœur est brisé, qui sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. Louez-le. Si nous voulons retrouver la raison, tournons nos regards vers le Dieu, notre Dieu. Et que voyons-nous ? Nous voyons le Dieu tout-puissant, créateur du ciel, de la terre. Le Dieu infiniment sage, le Dieu trois fois saint. Le Dieu qui connaît tout, qui peut tout, qui est partout. Le juge des vivants et des morts. Le Dieu que célèbre la multitude des anges. Mais regardez encore, que voyons-nous ? Nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu des cieux, qui quitte sa gloire, qui quitte la louange des anges, et qui se revêt d'humanité, qui se fait serviteur, qui s'humilie, s'abaisse, qui se rend obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin de pardonner toutes nos offenses, afin de pardonner toutes nos attitudes orgueilleuses qui ont produit tant de péchés et tant de douleurs. Si vous vous tournez vers ce Dieu, qui voudrait encore se glorifier ? Qui voudrait encore attirer de la gloire sur lui quand on est devant un tel Dieu, devant un tel Sauveur ? Nous sommes simplement confondus, humiliés. On veut juste être pardonné et restauré. Nous ne pouvons qu'adorer. C'est ce que je vous invite à faire maintenant, en priant. Seigneur notre Dieu, tu connais chacun ici. Tu connais la diversité des situations. Certains vivent dans le succès. Certains réussissent dans leurs études, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale. À tous égards, on pourrait croire qu'ils prospèrent. Mais Seigneur, si de leur cœur ne jaillit pas une louange, une adoration, si de leur cœur ils ne célèbrent pas ta gloire et la grandeur de tes bienfaits, on sait qu'ils sont tes ennemis. Et que bientôt tu vas les abattre pour qu'ils apprennent cette leçon. Et Seigneur, on voudrait que le testament de Nebuchadnezzar nous serve. Au contraire, lever nos yeux vers toi et dire combien nous te sommes reconnaissants, redevables. C'est toi qui nous donnes tout cela, c'est ta bonne main qui nous dispense toutes ces faveurs, toutes ces grâces. Tu peux mettre un homme insignifiant à notre place et l'élever. Et Seigneur, on te remercie, on te loue pour cela. On veut te prier de ne pas que nos cœurs n'oublient pas cette vérité, ce témoignage. Et puis Seigneur, tu sais, il y en a d'autres qui vivent dans l'abattement, qui connaissent cette période d'humiliation. Ô Seigneur, on te prie pour que eux aussi lèvent leur regard vers toi et puissent voir Jésus-Christ lui-même humilié, abaissé, crucifié à notre place.
pardonnant toutes nos fautes, tous nos manquements. Purgeant la peine de notre orgueil. Et Seigneur, on te loue pour la grandeur d'un tel amour, pour une telle bonté en notre égard. Et on prie pour que dans ta bonté, Seigneur, eh bien tu les relèves, que tu les aides à célébrer la grandeur de ton nom et que tu les soutiennes. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom, nous te le prions. Par Jésus-Christ. Amen.